Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 565 du podcast Jean Actuel à Mathieu. Très heureux de vous retrouver pour la preview de la 17e et pas dernière semaine. Ça, c'était avant la 17e et avant dernière semaine de NFL. À mes côtés, Lucas Vola est là. Bonjour, Lucas.
Salut, Alain. Salut, tout le monde.
Petite déception, je te l'ai dit avant l'antenne, de voir tes cheveux coupés.
Ouais, écoute, il fallait. Pendant Noël, d'habitude, on me dit que c'est le Père Noël qui passe par la cheminée. Là, j'ai pas compris, c'est le coiffeur qui est passé par la cheminée.
Mais ouais.
C'était un message.
Bon, t'as passé un bon Noël d'ailleurs.
Écoute, j'ai passé un très bon Noël émaillé de NFL. Je comprends que ça soit pas évident, mais c'est pas si mal. Entre le samedi et le dimanche, c'était pas trop mal.
Tu fais en effet partie de la team de valeureux qui ont rédigé des résumés de matchs pendant la semaine de Noël. Les Steelers toujours là, justement, les envers et contre tout, on va en parler, une course au playoff qui touche presque à sa fin, on a déjà pas mal de qualifiés, mais surtout beaucoup de suspense pour les dernières places, la finale NFC Sud entre les Buccaneers et les Panthers, ce sera notre affiche de la semaine, les pronos, les cotes, tout ça vous avez l'habitude, c'est jeudi et c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Steelers n'ont pas terminé une saison avec plus de défaites que de victoires depuis Lucas.
Depuis l'arrivée de Mike Tomlin, au moins, je vais me prendre cours 2004.
2000. Alors Tomlin, il est arrivé en 2007 et ouais. Ils n'ont pas eu de bilan négatif avec lui. La dernière saison en négatif, c'est 2003.
Oh, j'étais pas loin. Je savais qu'il y en avait quelques-unes avant lui, mais...
Ouais, t'étais pas loin, ouais, en effet. Cette saison, ils ont commencé par 2 victoires pour 6 défaites, donc on se disait, bon, bah ça y est, hein, ça va être la saison négative pour Mike Tomlin. Et les voilà à 7 victoires pour 8 défaites, avec 2 matchs à jouer. Donc, si vous savez faire plus 2, ça veut dire qu'ils ont toujours une chance, 1, d'être en play-off, et 2, surtout, d'être en positif. Avant les pronos et le calendrier, Lucas, un petit constat, c'est une constance incroyable. On ne peut pas ignorer l'impact de celui dont tu as prononcé le nom, qui est Mike Tomlin. C'est délirant quand même, un tel niveau de régularité.
Oui, clairement. C'est vraiment incroyable parce que, en effet, tu l'as dit, depuis 2007, donc ça fait des années, ça fait plus de 15 ans. Et c'est vrai que pendant ces 15 années-là, il y a eu Big Ben, il y a eu des très bonnes équipes, c'est vrai, mais il y a eu des équipes un peu moins bonnes. Et cette année, on fait partie, notamment, et peut-être qu'il finira en positif ou du moins pas en négatif. Bah, de toute façon, il n'y a plus le choix.
Il n'y a plus le choix
cette année, enfin, depuis qu'ils sont passés à 18. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense qu'en effet, il a une part prépondérante dans cette statistique, parce que c'est un coach, on le voit, qui arrive à tirer le maximum de son équipe, de l'effectif qu'il a, que ce soit en attaque ou en défense. Et en effet, il n'y a pas toujours eu des effectifs incroyables, mais pourtant il y a toujours eu un niveau constant. Quand on se dit qu'on supporte une équipe et que le minimum c'est, alors à l'époque le minimum c'est 8-8, c'est vrai que franchement il y a d'autres équipes, d'autres supporters, d'autres équipes qui doivent regarder ça avec des yeux doux quand même.
Pour situer un petit peu au niveau des records, les Cowboys ont fait 20 saisons sans un bilan négatif entre 66 et 85, les Patriots 19 saisons de 2001 à 2019, et les Steelers ont donc fait 18 saisons de 2004 à 2021. Ils attendraient à 19 saisons pour égaler les Patriots, s'ils y arrivent cette saison. Il ne serait plus qu'à une saison du record des Cowboys, donc c'est pour vous situer quand même le niveau incroyable de régularité dans lequel ils sont arrivés. C'est top 3 de tous les temps. La question maintenant qui se pose, c'est comment s'en sortir cette année, c'est pas évident. Il leur reste, on l'a dit, 2 matchs. Statistiquement, Lucas, c'est aussi ça qui est un des trucs un peu, je sais pas si c'est étonnant, mais c'est une des caractéristiques de cette saison. Statistiquement, ils sont au fond de quasiment tous les classements offensifs. Ils ont que 10 touchdowns à la passe, c'est le pire total en NFL. Ils ont que 4,9 yards par action offensive, c'est 28e en NFL. Ils ont que 17,6 points par match, c'est 29e en NFL. Comment ils font pour être là ?
Ouais, la réponse déjà facile, c'est, t'as parlé beaucoup de l'attaque, la réponse facile c'est la défense. Les statistiques en défense sont bien mieux que ce que tu as annoncé. Après, ça c'est la réponse facile. La réponse qui l'est un peu moins, c'est que, bah, comme on le disait, et notamment grâce à Mike Tomlin et certains leaders qu'il y a dans cette équipe-là, cette équipe elle est capable d'aller arracher des matchs qui ne sont pas forcément destinés à être gagnés, qui ne sont pas forcément destinés à être remportés offensivement. Et du coup, même si l'attaque ne fait pas grand-chose ou sur beaucoup de matchs, et à l'image du match de ce week-end face aux Raiders, elle fait pas grand-chose sur tout le match, mais il y a peut-être un éclat parce que c'est bien coaché, parce qu'il y a certains leaders, parce qu'il y a des joueurs qui arrivent à émerger, parce que l'équipe arrive à développer certains joueurs, et notamment les receveurs. On sait que c'est une tradition à Pittsburgh. Et donc du coup, on arrive à faire le jeu qu'il faut parce que la défense a tenu, et on arrive à faire le drive qu'il faut pour aller gagner un match 13-10. Je prends l'exemple de ce match contre les Raiders, qui n'a pas été vraiment beau du tout, hein, et pour cause, tu disais le résumé, j'ai eu la chance de faire ce résumé là. C'était pas un beau match, mais c'était un peu...
Oui, c'était ça le match que t'as fait, celui de la nuit.
C'est ça, celui de entre samedi et dimanche, en attendant le Père Noël justement. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu symptomatique de cette saison, c'est-à-dire que tout n'est pas très beau, mais il y a du caractère, il y a quand même de la qualité, il y a du talent à certains postes, et voilà, et donc ça va arracher des matchs parce que c'est bien coaché, parce que des fois les adversaires les laissent aussi, et ça arrache cette victoire quand même sur cette saison depuis le début quand même.
J'ai envie de te dire qu'une des clés c'est aussi qu'ils gagnent, tu disais, les matchs où c'est difficile, etc., mais en fait ils gagnent les matchs qui sont censés gagner, ou en tout cas qui sont à leur portée. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui vont perdre des fois contre moins fort, etc. Eux, tu sais qu'ils vont toujours prendre quasiment ce qu'ils doivent. C'est-à-dire que leur victoire de cette année, c'est contre les Bengals, les Buccaneers, mais surtout les Saints, les Colts, les Falcons, les Panthers, les Raiders. Donc c'est des équipes dans lesquelles ils sont là. Et en fait, comme ils sont bien coachés, comme ils sont sérieux, comme ils vont faire moins d'erreurs que des Raiders ou que des Falcons ou que des Colts, bah ils prennent ces matchs-là. Et en fait, leur défaite, c'est contre les Patriots, les Browns, les Jets, les Bills, les Dolphins, les Eagles, les Bengals, les Ravens. C'est des équipes, bah voilà, où on sait que c'est quand même très supérieur au-dessus. Et donc là, on va dire, l'avantage qu'ils peuvent parfois avoir en termes de coaching ou de sérieux, il va pas être suffisant. Mais encore une fois, c'est là où je trouve que tu vois la patte d'avoir une équipe qui est hyper structurée, hyper cadrée, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle fait. Et après, bon, bah, tu le disais, on peut pas nier l'impact de la défense. Leur creux aussi de début de saison, il correspond avec la blessure de TJ Watt. Ça c'est évident. Dès que TJ Watt est revenu, ça transforme la défense. Alors ça a un côté un peu mystique parce que il revient, il fait pas forcément des stats délirantes, mais t'as l'impression que tous les mecs autour se mettent à mieux jouer.
Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. On a eu l'occasion d'en parler peut-être. Je sais pas si c'était dans le podcast ou sur le Slack notamment de la rédaction, mais on a rarement vu, en tout cas pour ma part, j'ai rarement vu un joueur avec autant d'impact, mais pas forcément statistique ou sur le terrain, mais d'impact en tant que, comme tu disais, de leader, d'aura, déjà de pour les équipes adverses qui se concentrent vraiment sur lui et qui laisse des espaces autour. Mais ça, il y a beaucoup de joueurs tout de même qui le font, mais aussi des joueurs qui arrivent par leur présence à faire élever le niveau de jeu des joueurs qui sont autour d'eux. Et ça, c'est vraiment le lot des très 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 grands, et il y en a très peu qui font ça. Et je trouve, en effet, en tout cas sur cette saison, que TJ Watt est comme ça, parce que quand il est pas là, c'est vrai qu'il manque un joueur énorme et toute la défense est un peu moins bonne. Et quand il est là, il y a un joueur énorme qui se rajoute, mais il y a aussi toute une défense qui monte son niveau et qui donne une défense très solide.
Au classement, ils sont derrière les Patriots, les Jets, les Titans et les Dolphins. Les Dolphins qui sont actuellement les premiers qualifiés. Il leur reste deux matchs, Ravens et Browns. Il y a deux choses qui se passent. On l'a dit, il y a l'enjeu d'avoir un bilan positif pour continuer la série. Il y a l'enjeu d'aller en playoff. Pour aller en playoff, on va pas se cacher, c'est quand même très difficile, Lucas. C'est-à-dire qu'ils ont un match de retard sur les Dolphins. Donc il faudrait qu'eux gagnent leurs deux matchs et qu'ils espèrent beaucoup de défaites des autres. Ça semble compliqué quand même, vu qu'ils n'ont pas certains tiebreakers en plus. Dans leur division, ils ont le moins bon bilan, etc., etc. Pour les playoffs, on peut peut-être se dire que ça va être à oublier.
Ouais, c'est compliqué parce que, alors, il y a tout de même un Miami Patriots dont on va parler peut-être tout à l'heure, mais donc du coup, c'est une équipe, voilà, c'est entre eux. Après New England, c'est vrai qu'il faudrait beaucoup de choses là comme ça de tête. Il faudrait, je crois, que New England batte les Dolphins, qu'en même temps ils perdent contre les Bills en leur dernier match, que les Dolphins perdent aussi leur dernier match. Et puis derrière, il y a aussi, alors ils ont le tiebreaker, je crois, mais il y a encore les Titans qui sont pas très loin.
Ils ont pas le tiebreaker, moi, dans le classement que j'ai.
Ah, ils ont pas pas le tiebreaker. Donc voilà, ça voudrait dire que les Titans aussi doivent au moins laisser un match ou perdre le tiebreaker. Mm. Je ne sais pas s'ils se sont joués, mais après, ça s'est joué au match de division, je crois.
Oui, c'est ça. Et dans la en fait, les Steelers ont une victoire, trois défaites dans leur division, donc c'est ça qui les plombe, en fait.
Ouais. Bon, alors après, ils vont jouer deux matchs de division puisqu'ils jouent les Ravens et les... Et,
c'est ça,
et,
ils remonteraient à 3-3.
Bon, c'est de la fiction, on fait beaucoup de scénarios, mais c'est vrai que tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut beaucoup de choses. Ouais. Et donc en termes de probabilité, c'est vrai que c'est beaucoup moins. Après, c'est déjà incroyable d'être là à ce niveau-là, à ce moment-là, et de penser aux playoffs, et de se dire, avec deux victoires, ils seront en tout cas pas loin. Ça, c'est sûr.
C'est ça, ils seront dans la course. Mais ce qui maîtrise vraiment, donc, c'est de rester en positif, d'avoir un bilan positif pour la 19e année de suite. C'est pas facile à dire rapidement. Ils jouent les Ravens et les Browns. Ça semble pas infaisable, surtout qu'au moment où on enregistre, on le précise, on ne sait pas si Lamar Jackson va jouer pour les Ravens. Ça, c'est évidemment un énorme facteur X, mais c'est pas injouable, quoi, ce 9-7, ce 9-8.
Oui, parce qu'on a vu, les Ravens, que ça donne sans Lamar Jackson, et en effet, on ne sait pas trop s'il va jouer, et on pourrait se dire que les Ravens étant déjà qualifiés, on pourrait ne pas prendre de risque du côté d'Arbo pour Jackson. Et donc, du coup, ça donne un match qui est beaucoup plus nivelé que ce qui n'aurait été avec Jackson. Et ce serait pas, c'est pas impensable d'imaginer les Steelers aller gagner un match face aux Ravens ensuite d'aller battre les Browns. En effet, je serais curieux de voir les cotes après. Mais voilà, je regarde les Steelers. Ils ont perdu de 2 points contre les Ravens cette saison, si je me trompe pas. Ils avaient perdu d'un peu plus contre les Browns, mais c'était en début de saison.
Tout début d'année,
Donc en effet, ils vont être, et puis quand on voit la bonne dynamique, on voit comment ça joue, ils vont être pas loin de ces matchs-là, et je pense honnêtement qu'ils peuvent finir avec 2 victoires. Ouais.
Bon, ce serait en tout cas une sacrée performance, on le disait, 19 années de suite. Tu l'as dit, ils peuvent. C'est deux équipes contre lesquelles ils ont déjà perdu cette année, mais les dynamiques se sont complètement quand même changées. Les Ravens, il y a des blessés de partout, Lamar Jackson incertain, les Browns, maintenant il y a Deshaun Watson, c'est une équipe qui est plus en apprentissage qu'autre chose. Donc le pronostic,
alors,
lesquels ils prennent.
Je vais faire un pronostic à tiroir, mais si Lamar Jackson est là, ce sera une victoire, une défaite. S'il n'est pas là, je mise sur les 2 victoires.
Eh bien, la même chose pour moi. On passe à l'affiche de la semaine. Et l'affiche de la semaine, elle oppose deux équipes de la division NFC Sud, dont on avait déjà pas mal parlé dans le débrief. Tampa Bay Buccaneers, 7 victoires, 8 défaites. Panthers, 6 victoires, 9 défaites. Et malgré leur bilan négatif, ces deux équipes sont en course pour les playoffs. Et les Buccaneers ont même une chance de se qualifier dès ce match. C'est-à-dire que s'ils gagnent, ils remportent la division, ils vont en playoffs. Si les Panthers gagnent, ils prennent la division, enfin, ils prennent la tête de la division. Et ils auront leur destin en main la semaine suivante, mais ils ne sont pas qualifiés s'ils gagnent ce match-là, les Panthers. Eux, c'est vraiment pour reprendre leur destin en main. Et la semaine suivante, ils joueraient les Saints pour avoir un match où ils gagnent et ils sont qualifiés. L'opposition me semble simple sur un point, Lucas. C'est est-ce que les Panthers peuvent courir ?
Oui, bah, ils ont prouvé ce week-end qu'ils pouvaient courir. Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent courir face aux Buccaneers ?
Oui, c'est la question.
Ouais. Bah, c'est vrai que les Buccaneers... on a tendance à dire, quand on n'y réfléchit pas, que c'est très difficile de courir contre eux parce que historiquement, on a eu l'occasion de le dire dans ce podcast-là, historiquement, Tampa Bay a une défense contre la course qui est incroyable. Et sur les 3 dernières années, c'est souvent sous la barre des 100 yards. Et ça a été une des grandes forces de cette équipe-là quand ils sont allés gagner le Super Bowl. Mais c'est vrai que depuis cette saison-là, et encore une fois, j'ai été le premier à le signaler, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Alors ça a été un petit peu mieux la semaine dernière, face aux Bengals notamment, mais j'ai pas vraiment confiance en cette défense face à la course, et j'ai peur que ce soit vraiment un point de vraiment compliqué face aux Panthers. Ouais.
Les Buccaneers qui prennent 4,5 yards par course cette année, qui sont 20e en NFL, donc comme tu le disais, on a plutôt passé ce cap. En fait, il faut déconstruire un peu cette mystique autour de leur défense contre la course, d'autant que Vita Vea n'était pas là lors du dernier match, c'est-à-dire, enfin, quand je dis dernier, c'est de la semaine dernière. On ne sait pas encore éventuellement ce qu'il en sera cette semaine, mais c'est un sacré obstacle à contourner, Vita Vea, quand il est là. Et on sait en plus que les Panthers ont gagné le match aller 21-3 en courant 173 yards. Donc il y a des éléments qui sont quand même plutôt encourageants pour Carolina. À l'époque du premier match qui gagne 21-3, c'était PJ Walker, le quarterback, qui était censé être là pour faire le strict minimum. Là, c'est Sam Darnold qui est censé être là pour faire le strict minimum.
Mais un peu mieux.
Voilà ce que j'ai te demander. C'est un peu mieux quand même.
C'est un peu mieux quand même de ce qu'il a montré. Alors, je pense que, par exemple, la semaine dernière, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs. Et c'est beaucoup dire, hein, parce que c'est pas un match incroyable. Bon, on sort pas de ce match-là en se disant Sam Darnold a tout explosé. Mais voilà, à partir du moment où cette attaque arrive à courir, et ils nous ont montré qu'ils sont quand même plutôt bons, et ils l'ont été face aux Lions, si Sam Darnold est comme ça, c'est-à-dire en gestionnaire, pas d'erreur, arriver à distribuer un petit peu, ça peut mettre en difficulté cette défense là qui, encore une fois, on a parlé du jeu au sol, mais en général est beaucoup moins bonne que ce qu'on a pu voir, beaucoup moins bonne que ce qu'on pouvait imaginer, qui est une défense globalement moyenne. Tu l'as dit, tu as parlé de 20e contre la course, mais c'est une défense qui est moyenne. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne défense.
Et puis il y a eu beaucoup de blessés ces derniers temps, les Jamel Dean, les corners. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a été un peu gêné, blessé du côté de Tampa.
Ce qui n'aide pas, clairement.
Et Sam Darnold, tu le disais, c'est vrai que sans faire de bruit, il joue 4 matchs, il a 60% de passes complétées, 4 touchdowns, aucune interception. C'est 1 touchdown, 0 interception par match, hein, sur les 4 matchs. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Bon, il fait le strict minimum. C'est dingue, en voyant sa fiche, je vois qu'il a toujours que 25 ans. J'ai l'impression qu'on le voit depuis longtemps, qu'on considère que bon, ça y est, il est un peu perdu pour la cause et tout ça. Et en fait, le type a 25 ans, ça lui donne, t'as envie de dire, 10 ans de carrière sur l'échelle d'un joueur normal, 20 ans sur l'échelle de Tom Brady. Donc en fait, c'est un minot, tu vois, comme on dirait.
Oui, si c'est exactement, si comme on dirait par chez moi. Exactement, mais si cette progression est constante, enfin, en tout cas si cette progression, il a validé un palier et il y reste à minima. C'est vrai que pour ce genre de joueur là, on a du mal à avoir confiance sur plusieurs saisons, parce que ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine il reste aux Panthers ou peu importe, et qu'il redevienne le Darnold qu'on connaissait plus tôt. C'est vrai que c'est toujours compliqué pour des joueurs comme ça de se dire ce qu'on a vu sur 4 matchs. Est-ce qu'il est capable de le faire sur toute une saison? Bon, pour l'instant, il le fait. Et puis, sur les 4 matchs dont tu disais, c'est 3 victoires, 1 défaite. Donc, c'est vrai que, pourquoi pas, une belle fin de saison. Et puis après, pour Darnold, on verra. Mais en effet, il a du temps pour progresser.
Alors, l'autre facette de ce score de 21-3 là, dont on parlait au match aller, c'est les 3 petits points de Tampa Bay. On sait que l'attaque de Tampa souffre. La dernière fois qu'ils ont atteint les 24 points, c'était le 3 octobre contre les Chiefs. Et c'est la seule fois qu'ils ont marqué plus de 24 points cette saison. Ça aussi, d'ailleurs, hein, tu parlais de mystique autour de leur défense. Mais c'est dur de s'ancrer dans la tête que l'attaque de Tom Brady à Tampa, c'est 28e attaque NFL sur les points marqués.
Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais je trouve que vu que c'est Tom Brady, on est quand même beaucoup plus observateur, et depuis le début de la saison, on a quand même beaucoup plus déchiffré, oui, décrypté, analysé, et on a rapidement dit que cette attaque-là était pas forcément très bonne. Mais comme lors de leur titre, on avait beaucoup mis en avant l'attaque forcément parce que c'était Tom Brady, et on avait un peu oublié que cette défense-là, elle était très importante. Mais là, c'est un petit peu la même chose, et puis Todd Bowles, franchement, est un peu décevant sur cette partie-là. C'est quand même son corps de, c'est comme ça qu'il a fait son succès avec la défense. Donc je trouve que l'attaque, on l'a quand même déjà identifiée, et on a capté que depuis le début de la saison, c'était très moyen.
Après, j'ai l'impression que c'est un peu le vrai facteur X de ce match, cette opposition, parce qu'on a une défense en face des Panthers qui est assez frustrante. On sait qu'elle est pleine de potentiel, mais qui n'est pas si efficace que ça sur le pass rush. Ils viennent de perdre Jesse Horn quand même sur une blessure au poignet, donc c'est quand même majeur comme perte, parce que c'est un joueur qui fonctionnait très très bien. Donc c'est très irrégulier. Est-ce que, si je te dis, le facteur X, en gros, c'est de dire, est-ce que Tampa arrive à coller 21 points?
Oui, globalement c'est ça. J'ai pas les scores des Panthers en tête, même si la semaine dernière ils ont été un peu plus productifs que ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, au-dessus de 21, s'ils dépassent leur record, tu m'as dit c'était quoi, 24 points?
24. Enfin oui, ils ont mis une trentaine, je crois, contre les Chiefs, du coup, mais c'est la seule fois où ils dépassent les 24.
Ouais, mais voilà, s'ils dépassent les 24 une deuxième fois en mettant 24 ou 25, ça peut faire la différence. En effet, il faut que, on a vu des bribes depuis quelques semaines de Tampa qui a une attaque parfois de play-off, mais vraiment sur un drive, deux drives, un carton, notamment face aux Bengals. Voilà, il faudrait le faire. Alors peut-être qu'un carton ou deux marcherait contre les Panthers, mais c'est vrai qu'on a envie de voir cette attaque-là, pas forcément rouler sur tout le monde, mais être constante sur un match entier. On l'a pas vu depuis le début de la saison.
Les Panthers marquent précisément 20,9 points par match. Donc tu vois,
le 21,
le 21
était...
points, ouais. Est pas mal. J'étais pas trop mal. Pronostic
pas évident, parce que c'est vrai qu'on parle des Panthers depuis tout à l'heure, et il y a des vrais arguments pour dire que les Panthers peuvent aller gagner ce match-là avec la confiance et tout. Je vais quand même miser sur les Buccaneers, parce qu'on arrive sur des matchs quasiment de play-off, comme tu l'as dit, pas forcément dans la qualité, mais dans le côté une victoire et on continue, une défaite et ça se finit. Et à ce jeu-là, du mal à miser contre Tom Brady, même si c'est pas certainement pas le Tom Brady d'avant, mais voilà, je vais partir sur Tampa Bay.
Exactement la même vibe ici. Le côté c'est Brady, c'est un match décisif, c'est dur de pronostiquer sur une équipe à 6-9 en face, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis voilà, les on parlait de probabilité. Les probabilités nous ont montré que depuis quelques années, valait mieux miser pour Tom Brady que contre. Même encore une fois, si je dis c'est plus tout à fait le même, ça reste plus facile de miser avec lui.
Et de pronostic, il en sera encore question juste après ça.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Les pronostics avec un Grégory Richard qui caracole désormais en tête après une très belle semaine à 12 bons pronostics sur 16. J'ai fait la plus mauvaise semaine avec Victor, on est à 9 tous les deux, 10 pour Raphaël, 11 pour Lucas et Raoul. Classement général donc Grégory 148, 147 pour moi derrière, 146 pour Victor, 145 pour Raoul, on se tient en 4 points, 3 points, vache. 143 pour Raphaël, 141 pour Lucas. En vrai tout le monde se tient en 8 points avant les playoffs, hein.
Ouais, c'est vrai que et puis Victor m'a très justement rappelé que pendant les playoffs c'était 2 points, donc j'ai repris un petit peu espoir de pas finir dernier surtout.
Alors là le problème c'est que tu vois quand t'arrives en playoff avec genre 8 points de retard ou un truc comme ça, moi ça me l'a fait une année, hein, où j'avais dû prendre tout l'inverse, tu sais, du mec de devant. À l'époque on était que deux je crois, et du coup je m'étais planté et donc j'avais creusé ma tombe encore pire, quoi.
Ah non mais alors qu'on soit clair, moi je vise pas la tête, je vise juste uniquement de pas être dernier, et donc du coup de l'avant-dernière place elle est pas à 8 points, hein. Si tu regardes elle est pas du tout à 8 points, elle doit être à 2.
Ah bah non, ou... du coup bah ouais tu as 2 points,
voilà, donc je suis à 2 points de pas finir dernier, et on grandit petit à petit, c'est ma deuxième saison, on construit un effectif, voilà, c'est sur le long terme.
Bon, après, ceci dit, là, 2 points, on va le voir, ça pourrait bouger même dès cette semaine, hein, parce que il y a énormément de matchs incertains. En plus, je pense que le pire, ça va être la semaine prochaine, tu sais, avec les matchs qui comptent pour du beurre et des équipes qui vont se présenter à moitié et tout. Alors là, ça, c'est le truc qui va te dézinguer le classement, quoi. Clairement. Hypomètre, on commence. Bon, je pense qu'on est d'accord pour le début, là, on n'a même pas besoin de dire chacun son tour ou quoi.
Ouais, écoute, je sais pas si t'as le même, mais c'est vrai que Bengals Bills, c'est quand même le plus excitant de tous. Ça aurait pu être d'ailleurs l'affiche de la semaine, parce que en termes de niveau de jeu, c'est peut-être le match le plus excitant. Il y a deux équipes qui jouent en plus pour le first seed, la première place de la conférence. Les Bills le sont pour l'instant. C'est deux équipes qui pourraient se retrouver en playoff aussi, qui visent clairement le titre, hein. Les Bills, ils sont taillés pour, les Bengals sont champions de l'AFC en titre. Franchement là on est sur un match qui en plus pourrait être un test, vraiment je pense que ces deux équipes là elles peuvent se tester vraiment sur ce match là et en semaine 18 j'ai pas leur calendrier en tête, mais reposer ou selon les calendriers, donc je pense que c'est peut-être le moment où on va voir ces deux équipes au maximum, et comme on le voit depuis le début de la saison, Bills et Bengals au maximum ça peut faire des dégâts.
Cincinnati, ça joue pour une victoire dans l'AFC Nord, pardon. S'ils gagnent et que Baltimore perd, ils sont assurés de remporter le titre de division, donc de recevoir leur premier match de playoff. Buffalo, il y a quand même cet enjeu aussi là, c'est que s'ils gagnent, ils sont assurés de la victoire, de la première place de la conférence. Donc là, clairement, c'est le repos dont tu parlais la semaine prochaine.
Et puis, si les Bengals gagnent, ils peuvent repasser devant Buffalo aussi dans le classement pour plus tard, pour imaginer des matchs plus tard et recevoir peut-être les Bills en play-off la suite du tour de play-off.
Oui, tout reste relativement encore ouvert au niveau des classements dans cette conférence, notamment par rapport à la NFC où Philadelphie a un avantage un peu plus net. Mais là, Bills à 12 victoires, Chiefs à 12 victoires et Bengals à 11, ça fait en effet une fin serrée. Pour qui tu pronostiques ce match ?
Je vais partir sur c'est pas facile. Je vais partir sur les Bills parce que les Bengals, ils ont gagné leurs deux derniers matchs, mais c'était pas évident face aux Patriots. Ça l'était pas non plus face aux Buccaneers, qui sont pas des mastodontes. Je pense qu'ils vont élever leur niveau de jeu tout de même, mais je pense que les Bills sur une meilleure dynamique.
Bah, tu vois, moi je vais prendre les Bengals. Je vois qu'on est les seuls avec Grégory à choisir les Bengals pour l'instant. C'est la première fois que Joe Burrow affronte les Bills.
C'est un match à Cincinnati, on est d'accord.
C'est un match à Cincinnati.
Oui, c'est pas déconnant.
Voilà. Pour moi, c'est vraiment le test pour les deux défenses qui m'intéresse. Hein. Franchement,
oui. Puis
qu'on a vu. Mais je m'en fais moins pour les deux quarterbacks, même s'il y en a un qui a un match sans, tu vois, je ne serais pas inquiet. Mais je vais prendre les Bengals. Très beau match, mais je vais prendre les Bengals. Allez, je te laisse choisir ce qui suit dans le hypomètre.
Ce qui suit, je vais rester en AFC. Je vais parler Patriots-Dolphins. Alors là, on n'est pas sur forcément un niveau de jeu peut-être incroyable, mais c'est un match avec beaucoup d'enjeux. On en a parlé tout à l'heure. Pour moi, les Dolphins gagnent. Je ne sais pas si mathématiquement ils se qualifient pour les playoffs, mais ils n'en seront pas loin du tout.
Ils auront besoin d'une défaite des Jets.
Voilà, ils auront besoin d'une défaite des Jets. Pour le coup, les Patriots, si eux l'emportent, ils pourraient repasser devant les Dolphins. Dans cette course à la wildcard, c'est un match qui a vraiment beaucoup d'importance. C'est un match toujours qui est un peu difficile à pronostiquer entre les Patriots et les Dolphins. On ne sait pas vraiment encore le statut de Tua Tagovailoa, ça peut changer pas mal de choses, mais c'est vrai que pour moi c'est important parce que c'est un peu les Dolphins sont vraiment les deux équipes sont dans une mauvaise dynamique et pourtant elles peuvent encore aller viser les playoffs, donc c'est un match intéressant pour moi.
Ouais, c'est vrai que je fais un petit aparté, mais dans le débrief des matchs il y a quelques jours, donc on avait un peu parlé des trois interceptions de Tagovailoa en fin de match, etc. On n'avait pas vraiment la donnée qu'il était commotionné, donc je précise si ça a pu paraître maladroit à certains avec le recul ou qu'ils l'écoutaient plus tard. Donc voilà, on ne sait pas dans quel état il est, est-ce qu'il va pouvoir jouer. Ça rend la chose très compliquée pour lui en premier lieu.
Ça pose de vraies questions en tout cas, ça pose de vraies questions même dans l'avenir de la NFL et tout ça, parce que pour faire une petite digression, mais c'est vrai qu'on s'était posé la question au moment de sa première commotion, ça avait un petit peu changé, mais c'est vrai que et comme tu le dis, de faire un débrief sans trop le savoir parce qu'on ne le savait pas vraiment, les infos n'étaient pas passées et tout, c'est très compliqué, ça pose de vraies questions.
C'est dingue, et d'autant que quand tu revois en fait le ralenti de l'action où il a été commotionné, en fait oui, ça semble le plus évident en fait, tu vois, c'est juste que nous on n'a pas tous les ralentis etc, mais c'est dingue qu'il n'y ait personne pour le voir quoi, et c'est soi-disant, c'est méchant de dire ça comme ça, mais ces gens qui sont en charge de les spotters là qu'on appelle sur les terrains maintenant, qui doivent repérer les joueurs commotionnés, on avait déjà vu sur le match des Patriots, ça c'était Devante Parker il y a quelques semaines,
oui,
qui se relève complètement groggy, et c'est un de ses coéquipiers qui le sort heureusement, mais sinon on lui disait quoi, on lui disait rien. Enfin, c'est un truc, c'est bizarre quand même. Bref, en tout cas, Patriots Dolphins, donc tu l'as dit, très intéressant, très, très, très fort en jeu. Tu pronostiques qui du coup ?
Je vais mettre les Dolphins. Alors, on le sait, je pronostique jamais pour les Patriots. Mais même là, même s'il n'y a pas Tua Tagovailoa, les Dolphins qui se font une habitude d'aller battre les Patriots. Patriots qui se font une habitude de perdre les matchs, de trouver des moyens de perdre les matchs cette saison. Donc, je vais partir sur Miami.
Je vais partir sur les Patriots parce que je pense que Tagovailoa va pas jouer. Ça me paraît très touchy quand même après ce qui s'est passé cette saison.
Ouais, ça serait très touchy.
Donc je vais aller là-dessus. J'enchaîne avec Packers-Vikings. On est toujours dans les matchs à enjeu. Les Packers qui sont toujours en vie. La défense des Vikings qui est faible. Hein. Ils prennent plus de 400 yards par match. Il n'y a que les Lions qui font pire. Donc il y a un coup à jouer clairement pour Green Bay. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'ils vont jouer et je vais aller sur les Vikings.
Je sais même plus, j'ai rempli mon tableau des pronostics, je sais même plus ce que j'ai mis parce qu'en effet...
Alors attends, je vais te dire, il y a tellement de lignes maintenant et il y a tellement de gens. Elle est où la ligne ? Ah, Vikings, 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 Lucas a mis Vikings.
Mais c'est vrai que voilà, Green Bay, ils aiment, voilà, déjà ça fait deux matchs qu'ils gagnent, qui sont plutôt bons. Et puis c'est vrai qu'ils aiment bien peut-être avoir ce côté on croit plus en nous, on n'aime pas cette vibe un peu patriote de l'époque. On croit plus en nous, on a été laissé pour mort entre guillemets, et puis on va essayer peut-être de revenir parce qu'eux aussi visent plus ou moins encore les playoffs. Je vais rester sur Minnesota parce qu'ils nous ont prouvé que même les matchs serrés, mais ça sera un match serré. Minnesota, ils sont incapables de faire un match qui n'est pas serré.
Clairement.
Donc ça sera un match serré, ça, c'est du 50-50, je vais rester sur Minnesota, allez.
Clairement. Le match suivant.
Le match suivant, je vais partir sur Houston, Jacksonville. Texan face aux Jaguars.
Ok.
Ouais, ça sort un petit peu du cadre, on va dire. Mais bah, Jacksonville doit gagner pour rester en tête de sa division. Parce que là, dans cette division-là, si on la gagne pas, on va avoir du mal à se qualifier. Et ça serait bien d'avoir un match de play-off pour cette génération de Jacksonville, commencer par une qualification, Trevor Lawrence qui découvre les play-offs. Et en même temps, il y a Houston, qui certes est une des pires équipes de la ligue, mais ça fait quand même 3 semaines qu'ils jouent plutôt bien. Ils ont accroché Dallas, ils ont accroché Kansas City. C'était deux équipes très fortes. Ils ont battu les Titans. J'imagine Houston faire un match serré face aux Jaguars parce qu'on le voit, Lovie Smith arrive à faire jouer ses joueurs à un bon niveau. Et je pense que ce sera un match serré, donc c'est pour ça que je le mets quatrième. Je pense que ce sera Jacksonville pour moi, parce qu'il y a trop d'enjeux, mais je pense que ce ne sera pas un blowout.
Donc, 3 victoires de suite pour les Jaguars, donc c'est le moment de... C'est le moment de montrer un match où tu domines, quoi.
Ouais, mais je pense.
Face à une équipe inférieure.
J'ai du mal à l'imaginer. Je peux imaginer une victoire aisément. J'ai du mal à imaginer un match dominant du début à la fin. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont réussi à le faire face à Houston depuis quelques semaines. Hein.
C'est vrai. Bon, je leur souhaite en tout cas et je pronostique les Jaguars. Les Ravens contre les Steelers, pour moi, derrière. Match évidemment importantissime dont on a parlé tout à l'heure. Match défensif. Là, évidemment, par la force des choses, en plus, vu la qualité des effectifs offensifs,
ouais.
Ça va être celui-là, il va être à quoi? À 13-10
Ah oui, ça peut finir.
17-13, quoi.
Ouais, ouais, ou c'est un 16-14, un 14-10, ou, bah, comme les Steelers qui ont gagné 13-10 face aux Raiders, ça peut être ça. Hein.
Et on l'a dit un peu tout à l'heure, on va pas s'éterniser sur ce match-là, mais l'immense facteur X, c'est Lamar Jackson, quoi.
Ouais, ouais, je sais pas si on est autorisé à mettre un point d'interrogation sur notre pronostic, mais.
Alors, il se peut qu'on le change dans notre fichier entre l'émission et le match, parce que voilà, on se l'autorise des fois quand il y a des incertitudes, blessures comme ça. Du coup, je vais partir sur Ravens, de toute façon, voilà, en me disant, a priori, Lamar Jackson est au bord de revenir. Après, c'est vrai que t'as raison, j'avais oublié le paramètre, c'est qu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs.
Ouais, ouais, c'est
donc,
pour ça.
Donc, t'as pas d'intérêt à le risquer non plus.
Ouais, surtout que je ne me rappelle plus exactement la nature de sa blessure, mais si c'est quelque chose qui est voué peut-être à avoir des rechutes à quelques semaines, voire même quelques jours des playoffs, je vais partir sur les Steelers en imaginant que Lamar Jackson sera mis au repos. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais mis dans le...
Non, t'avais mis Ravens.
Eh ben, je vais partir sur les Steelers en me laissant, comme tu l'as dit, une petite marge si jamais Lamar Jackson est annoncé titulaire.
Eh ben, écoute, moi c'est l'inverse, je viens de te dire Ravens alors que j'avais mis Steelers dans le,
bon, ben, voilà.
dans le fichier. Donc je vais prendre Steelers, allez, je vais être... Je vais revenir à ce que j'ai dit dans le fichier, puis on verra bien. Si Lamar Jackson est annoncé, je passerai peut-être sur les Ravens. La suite.
La suite, ce sera Seahawks-Jets pour moi, avec deux équipes qui ont perdu un petit peu le fil de leur qualification en playoff. Ça fait, en début de saison, on s'était imaginé que ces deux équipes-là seraient en playoff pas facilement, mais elles y seraient. Finalement, elles sont en ballotage défavorable. Et je pense que le perdant, je suis quasiment sûr que le perdant sera éliminé de la course des playoffs des deux côtés. Voilà, les Jets ont toujours cette défense qui est très bonne. Les Seahawks ont une attaque qui commence à un petit peu affaiblir malgré le fait que Geno Smith est pas forcément mauvais. Donc j'ai hâte de voir ce match-là avec, voilà, en toile de fond le côté de se dire le perdant sera éliminé et gâchera un petit peu une bonne saison.
J'avais le même et pareil, ouais, cette sorte de hype qui s'est éteinte. Les Jets sont sur 4 défaites de suite, les Seahawks sur 3 défaites de suite.
Ouais, donc, alors qu'avant ça on se disait que c'était pas mal.
Clairement. Et je vais revenir à une vibe plus old school, du coup, les Jets. Mike White de retour, meilleure défense.
Ouais, pareil.
Les Titans contre les Cowboys, c'est le match du jeudi. C'est le dernier match du jeudi de la saison. Le dernier réveil précoce du vendredi. On va enfin redormir à la fin de semaine. Titans, Cowboys, donc. Les Cowboys qui ont volé 30 ballons en NFL, c'est plus que n'importe quelle équipe. Et ils jouent face à Malik Willis. Avec en plus l'attaque de Dallas. Je sais pas pourquoi j'ai mis ce match si haut en fait.
Alors je vais pas te mentir, je l'ai mis aussi. Hein, je crois qu'on est au 7ème. Je l'ai mis 7ème parce que après derrière il y a beaucoup de matchs déséquilibrés. Des matchs...
Ouais, il y a une cassure hein, derrière, ouais. Clairement. Après Jets Seahawks, c'est pareil. J'étais un peu perdu. J'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre. Bon, les Cowboys pour moi, en fait, il y a pas vraiment match. C'est pas grave.
Ouais, pareil pour moi. Ce sera Cowboys et les Titans qui vont peut-être enchaîner une nouvelle défaite. C'est la fin de saison compliquée. Ensuite, alors dans ma liste, j'ai Détroit-Chicago. Ouais, on est sur un match de division, comme on disait. Après ces matchs-là, il y a une petite cassure. Détroit-Chicago, oui. Parce que bah, les Lions étaient hypés, viennent de perdre contre les Panthers. En même temps, eux, pour le coup, ils sont toujours plus ou moins véritablement dans la course. Et Chicago, j'ai l'habitude de le dire, c'est une équipe qui perd ses matchs. Mais c'est une équipe que je trouve particulière, parce que c'est pas une équipe que j'imagine, je sais plus, ils sont à 3-11 ou 3-12. J'ai pas leur bilan, mais c'est
ils sont très loin.
Ils sont très loin, et pourtant, c'est pas une équipe que j'imagine aussi faible que ça. Ils ont encore mis en difficulté, notamment en première mi-temps, les Bills cette semaine. Donc je pense que c'est un match, ils peuvent poser des soucis aux Lions, qui eux jouent vraiment pour les playoffs. Donc ouais, Lions Bears, je vais jeter un coup d'œil averti sur ce match là
je l'avais mis aussi un peu pour ça, au sens où super attaque des Lions, ils vont retrouver leur dôme, donc ça devrait aller un peu mieux, ils seront pas dans le froid, etc. Mais équipe pour la gratter en face, donc les Lions, mais mes matchs qui peuvent être potentiellement un peu plus compliqué. Puis on l'a dit, hein, défense passoire des Lions, hein, qui prend le plus de yards en NFL. Donc tu sais pas, sur une enflammade de Justin Fields, ça peut
qui arrive de manière de plus en plus récurrente en plus. Donc ouais.
Bah c'est ça, ça peut faire un match un peu plus compliqué. Derrière, je vais prendre le Chiefs Broncos. Vraie curiosité, parce qu'il y a eu le licenciement de Nathaniel Hackett. Donc en fait, maintenant, bah tu te dis, on n'a plus Hackett, donc on va pouvoir regarder si c'était Russell Wilson.
Ouais, c'est difficile de faire ça de manière aussi rapide.
Oui, mais... 3 jours après, c'est un peu rapide.
Mais en effet, surtout que je pense que Hackett n'était pas le seul responsable quand même. Je pense que Wilson a une grosse part de responsabilité. Pour le coup, j'avais ce match bien plus loin. J'ai du mal à être hypé. C'est pour moi le match le plus déséquilibré de la semaine.
Ouais, mais comme il y a les Chiefs, c'est toujours des bons matchs à regarder, tu vois.
C'est vrai.
Il y a un facteur spectacle. Donc les Chiefs pour tout le monde.
Ouais, je pense.
Qu'est-ce que tu avais ensuite ?
J'avais les Commanders face aux Browns. Pareil, les Commanders, c'est qui ont besoin de cette victoire-là, qui ont chuté la semaine dernière, qui ont besoin de la victoire, de continuer. Et puis, des Browns qui avaient montré un peu de mieux sur 3 semaines, notamment Deshaun Watson, qui revient un petit peu. Voilà, je pense que ça va être un match qui peut être surtout défensif. Voir si c'est Tyler Heinicke ou Carson Wentz qui sera titulaire du côté des Commanders. On a vu Heinicke être mis sur le banc. C'est des questions un peu qu'on se pose. Pas sûr que bon, les Browns, c'est sûr, pas sûr que les Commanders atteignent les playoffs, mais ça reste un match sympa à voir, à mon avis.
C'est l'improbable de la semaine, hein. Si les Commanders gagnent, ils peuvent aller en playoffs. Si Détroit perd contre Chicago, si Seattle perd contre les Jets et si Green Bay perd contre les Vikings, bon, ça fait beaucoup beaucoup d'aide, mais ils sont vivants.
Ouais, ils sont toujours vivants.
Je vais prendre les Commanders aussi. T'avais pris les Commanders,
ouais,
du coup, hein.
Exact.
Les Eagles contre les Saints, pour moi, une victoire et les Eagles remportent leur division et la première place en NFC. C'est pareil, c'est pas un match qui me hype de dingue sur le niveau de jeu, mais bon voilà, les Eagles marquent quasiment 10 points de plus que les Saints en moyenne par match. Les Saints ont une bonne défense.
Ouais.
Voilà, bon test. Si Jalen Hurts revient, se remettre dans le rythme, etc., prendre la division avant d'éventuellement se reposer. Mais c'est pas. Et je suis méchant en fait pour le niveau de jeu, parce qu'en fait, c'est des équipes qui sont pas. Enfin, même les Saints, en fait, malgré leur bilan, sont pas affreux, quoi.
Non, ils sont pas affreux. Et puis en plus, il y a cette blessure de Lane Johnson, le lineman offensif, dont on parle beaucoup aussi. Voir un petit peu comment le pass rush va être géré du côté des Eagles. Donc, ouais, il y a des choses à voir. Et comme tu l'as dit, est-ce que Jalen Hurts va revenir ou pas? C'est intéressant.
Eagles pour toi ?
Ouais, je vais partir sur les Eagles, ouais, tout de même.
Il nous reste 4 matchs.
Il reste 4 matchs. Raiders 49ers. Plus pour les 49ers que pour les Raiders, on va pas se mentir.
Ah bon ?
Mais bon, je suis globalement un amoureux de cette défense des 49ers. On l'a dit et redit, c'est plus vraiment une surprise. Cette défense-là, elle est quand même.
Je viens de réaliser que du coup Derek Carr va devoir affronter cette défense, quoi.
Ouais, la ligne offensive de Las Vegas va affronter aussi ce pass rush. Ouais, et les yeux que tu es en train de faire disent tout. Même si les gens ne voient pas, ils peuvent se l'imaginer. Ça peut être sympa à regarder, peut-être pas pour tout le monde, mais en spectateur, on va dire objectif, ça peut être sympa. Et puis surtout les 49ers qui sont vraiment très en forme cette saison, enfin sur cette fin de saison, qui peuvent continuer de gagner de la confiance et attaquer les playoffs pleine balle.
Après, c'est la NFL, on n'est jamais à l'abri d'un scénario où Derek Carr et Josh McDaniels font le match de leur vie, tu sais, pour donner un peu d'espoir en fin de saison, le traditionnel.
Ou Brock Purdy qui lance 3 interceptions.
C'est ça, voilà. Et revenir se cracher mieux l'an prochain.
Oui, oui. C'est
comme ça. C'est l'espoir de fin de saison, quoi. Donc, mais bon, 49ers aussi pour moi, clairement. J'allais dire duel californien, mais non, plus du tout, puisqu'ils sont à Vegas.
Oui, c'est pas très loin.
C'est ça. Avant, ils étaient vraiment voisins, hein, pour le coup. C'est ce qu'on raconte à chaque fois, mais le stade des Raiders, le Coliseum d'Oakland, était plus proche du centre-ville de San Francisco que le stade des 49ers.
Ah oui, hein. Je crois qu'on peut confirmer tous les deux, notamment.
Ah ouais, et puis de loin, en fait, hein, parce que tu y allais en transport facile depuis le centre de San Francisco au stade d'Oakland.
Oui, ouais.
C'était vraiment... Bon, bref. Mais du coup, ils n'y sont plus. Les Giants contre les Colts, pour moi, c'est quand même, mine de rien, on le mettrait très bas, je pense, vraiment à cause du niveau des équipes qui ne nous enthousiasment pas follement. Mais c'est quand même un match où, si les Giants gagnent, ils vont en play-off.
Ouais, ouais, et puis ce serait... On a parlé des hypes tout à l'heure de Seahawks et Jets qui ont un peu chuté. Mmh. Eux, ils ont réussi, ils ont eu un petit passage à vide, mais ils ont réussi
Survécu tant bien que mal.
Ouais, mais bon, voilà. Après, c'est une équipe de première année avec son coach qui peut éventuellement aller gratter un match de playoff. On a vu ce que ça a donné pour Philadelphia l'année dernière. Je dis pas que c'est le même effectif, mais voilà, un match de playoff, c'est jamais anodin pour une équipe qui est jeune. Donc ouais, c'est surprenant, mais pourquoi pas. Ils risquent de battre les Colts. En tout cas, moi, je pars sur les Giants.
Bon, je pars sur les Giants aussi. Ils vont jouer Nick Foles, hein, ça a été confirmé par Jeff Saturday qui a dit qu'il conservait Nick Foles pour ce match. Bon, c'est pareil, on n'est jamais à l'abri d'un Nick Foles qui prend feu, c'est sa carrière, hein, lui, de toute façon. Hein, c'est
oui,
vraiment, il est défini par son côté imprévisible. Je pense que s'il y a un mot qu'on doit garder de la carrière de Nick Foles, c'est ça.
Oui, ça, ça colle bien.
Bon, pour... Donc voilà, donc, après, en termes de pass rush, clairement, les Giants ont l'avantage et ont de quoi l'embêter. Et cette équipe des Colts, là, elle est quand même en difficulté en fin de saison. Donc Giants, il te reste Chargers-Rams ou Falcons-Cardinals?
Alors, j'hésite beaucoup. Je les ai mis dans un ordre, mais je vais prendre l'ordre différent. Et je vais partir sur le duel de Los Angeles-Chargers-Rams. J'avais mis l'autre, mais c'est vrai que voilà, les Chargers sont qualifiés en playoff, si je ne me trompe pas. Ils peuvent continuer à prendre de la confiance, à jouer contre une équipe qui... un petit revival en fin de saison, même si c'est pas incroyable, mais au moins ça rejoue un petit peu. C'est une équipe qui reste, qui a du talent. Je me demande si, voilà, c'est dans un stade qui risque d'habitude, quand Los Angeles joue à domicile, c'est les supporters adverses qui viennent remplir un peu le stade. Là, je suis un peu taquin, mais je me demande qui va remplir le stade.
Bah, j'allais dire que malgré tout, il y a toujours moyen qu'il y ait plus de fans des Cowboys.
Ouais, voilà. c'est fort probable.
À mon avis, il y aura plus de fans des Cowboys et des Steelers, encore une fois, on ne sait pas comment, mais ils seront là, quoi.
Voilà, c'est fort probable. Je vais partir sur les Chargers, mais je pense que c'est un match qui peut être intéressant dans le côté les deux équipes ont, c'est pas qu'ils ont plus rien à jouer, les Chargers ont encore des choses à jouer, mais ils ont fait le boulot pour l'instant et ça peut partir un peu dans tous les sens.
Chargers aussi. Moi, je le trouve plus intéressant que l'autre pour le alors peut-être de Baker Mayfield, quoi. Tu vois, pour le...
ouais.
69 passes complétées, 69% de passes complétées, 4 touchdowns, une interception depuis qu'il est à Los Angeles. Est-ce que c'est un revival? Est-ce qu'on se dirige vers une polémique au poste de quarterback? Tout ça, j'espère pour des titres, tu vois, là, c'est pas
oui, je comprends.
Titres,
après, c'est vrai que c'est, t'as donné des statistiques aplanies sur 3 matchs, je crois, mais quand tu prends match par match, il y a un haut, un bas, un haut, peut-être que ça sera le bas, là, pour ce week-end.
Ah, mais t'imagines ce duel d'anciens numéro 1 de la draft avec Matthew Stafford au camp d'entraînement l'an prochain?
Ah, ça peut être grandiose.
Eh ouais, on a deux anciens numéro 1 de la draft, mine de rien.
C'est vrai.
Donc, à 10 ans d'écart ou quelque chose comme ça, non ça...
Ou pas loin.
Ouais, il y a une bonne différence quand même. Hein. Je crois que c'est 2009 et 2019, quelque chose comme ça. Bref, on termine avec Falcons Cardinals. Je vais pas mentir, je pense que vraiment, ce match, il a deux fonctions. C'est-à-dire, un, servir à Desmond Ridder pour continuer à se faire la main. Et deux, foutre le chantier dans nos pronostics. Parce que, bon, là, pour moi, c'est un peu pile ou face, quoi. C'est-à-dire que je vois vraiment pas, à part Desmond Ridder, ce que t'as envie de regarder si t'es pas supporter des deux équipes, quoi.
Clairement, et je me demande même si t'es supporter des Cardinals, c'est ce que t'as vraiment envie de regarder à quel point ton équipe est tombée bas avec les blessures et le niveau de jeu.
Pour l'hommage à JJ Watt,
ouais,
qui vient d'annoncer sa retraite, quoi.
À la limite.
C'est vraiment celui-là, il est dur. Je vous remets le programme dans l'ordre, puisque là, évidemment, on vous l'a donné dans l'ordre d'intérêt. En tout cas, le nôtre, évidemment, ça reste relatif. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 2h20, les Titans contre les Cowboys. Le 1er janvier à 19h. Donc, ce sera votre lendemain de fête, hein, à 19h. Falcons, Cardinals, Lions, Bears, Texans, Jaguars, Chiefs, Broncos, Patriots, Dolphins, Giants, Colts, Eagles, Saints, Buccaneers, Panthers, Commanders, Browns. À 22h05, Raiders, 49ers, Seahawks, Jets. 22h25, Packers, Vikings, Chargers, Rams. À 2h20 dans la nuit de dimanche à lundi, ce sera Ravens, Steelers. Et à 2h30 dans la nuit de lundi à mardi, ce sera le Bengals, Bills, qui va clôturer quand même en beauté cette semaine de saison régulière, cette semaine 17. On vous rappelle donc que c'est le dernier match du jeudi soir. Et qu'en semaine 18, tout aura lieu le dimanche. Après, on reviendra à un truc un peu plus éclaté pour la première semaine des playoffs, puisqu'il y aura samedi, dimanche, lundi, puisque maintenant, il y a des Monday Night de playoffs. Et puis après, on reviendra évidemment sur le programme habituel, mais on aura le temps d'en reparler, en tout cas, après cette semaine 17, où il va encore une fois se passer plein de choses. On termine avec les cotes Unibet. Et il y a des bonnes cotes cette semaine, Lucas, il y a des très bonnes cotes.
Bah oui.
Alors, si vous aimez le pile ou face du Falcons Cardinals, d'ailleurs, le Cardinals, il a 2,41.
Oui, c'est clairement ça.
Mais bon, je ne mets pas d'argent sur les Cardinals, faut pas rire.
Ouais, on va pas. On est courageux, pas forcément téméraire. Ou l'inverse. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on le disait depuis tout à l'heure, il y a des cotes qui sont un peu sympas. Pareil, je parcours un petit peu le
CIO. Moi, c'est le Vikings qui me. Le Vikings à 2,37 contre les Packers.
Ah oui, j'étais pas arrivé jusqu'en bas, en effet. En effet, on a tous les deux mis les Vikings d'ailleurs, je crois. Ce serait cohérent de miser sur les Vikings, en effet.
Et après, s'il y a confiance, on a mis les Bucks parce qu'on veut pas miser sur Tom Brady, mais si tu prends vraiment la dynamique, les Panthers à 2,20, c'est pas le truc le plus délirant non plus. Hein.
Oui, les Panthers à 2,20. Et on a parlé tout à l'heure d'un match entre les Seahawks et les Jets. Quand tu regardes les cotes, c'est vrai qu'on a misé sur les Jets, mais. Les Seahawks qui sont quasiment à 2, j'ai 1,98.
Ouais. C'est pas mal aussi. Après, il y en a qui sont intéressantes aujourd'hui parce qu'il y a blessure. C'est-à-dire, par exemple, je pense aux Dolphins à 2,09 contre les Patriots. Tu vois. Si tu as un Tua Tagovailoa qui revient, etc., c'est intéressant. Le Steelers Ravens, il est à 2,19 pour les Steelers actuellement. Mais si jamais Lamar Jackson ne joue pas.
Ouais.
Tu vois, ton Steelers, il devient intéressant à 2,19. Et après, si tu veux être joueur, là, pour le coup, où c'est vraiment sur du pronostic pur, le Bengals-Bills, parce que tu as deux bonnes cotes.
C'est ça. De toute façon, c'est ces matchs-là, on voit Bengals 1,84, les Bills 1,79, c'est des matchs où voilà, il faut miser sur une des deux, et puis, entre guillemets, on a 50% de chance, mais les deux cotes sont élevées, donc mais il faut le jouer, il faut avoir bon.
Alors, Vikings 2,37, Panthers 2,20, on a dit les deux premiers. Ouais. C'est quoi la troisième pour toi?
Mais moi j'aime bien Miami à 2,9, même si Tagovailoa est pas là, je l'ai dit, alors c'est contre les Patriots, mais avec un Teddy Bridgewater, je pense qu'ils peuvent tout de même accrocher les Patriots, qui sont quand même pas forcément rassurants sur un match défensif. Moi je dis pourquoi pas.
Et ben pourquoi pas, vous pouvez les jouer séparément évidemment, 2,37 les Vikings, les Panthers à 2,20, les Dolphins à 2,09, et si vous voulez les jouer en combiné, ça fait 5€ misé, 54,49€ de gain potentiel. Il y a un beau YOLO à faire du coup, parce que on disait les Seahawks à 1,98.
Les Seahawks à 1,98.
Les Steelers à 2,19, on y croyait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre?
Et puis, pour un YOLO, sur un YOLO Bengals Bills, j'allais dire, ça vaut pas le coup, mais c'est vrai que les Cardinals.
Les Cards à 2,41, c'est YOLO?
Ouais, c'est YOLO, et en même temps, c'est possible.
C'est pas, clairement pas impossible, ouais. Je suis en train de regarder si on a une autre qui pourra rentrer dans le cadre. Bon, les Raiders, c'est très YOLO quand même. Parce que après tu peux miser le revival Baker Mayfield à 3,02 aussi, hein. Les Rams sont à 3,02 contre les Chargers.
Ouais.
Bon allez, on va rester là-dessus. On a rajouté à nos trois de base les Seahawks à 1,98, les Steelers à 2,19, les Cardinals à 2,41, 5€ misés, 611,72€ de gain potentiel. C'est pour ça que je disais que tu vois, c'est un petit YOLO. Parce que là tu rentres même plus dans Paris là.
Ah ouais, non, tu
vois, sur les YOLO immobiliers. Alors là, si tu veux rentrer dans Paris, il faut rajouter les Rams à 3,02.
Parce que la règle, c'est quoi? C'est un loyer parisien, c'est ça?
Bah ouais, t'essayes quoi.
Ouais, t'essayes. Alors, en effet, je te confirme. Ouais, tu rentres dans Paris, mais t'as un 9 mètres carrés et encore.
Ouais, encore. Hein. Enfin, je sais pas, moi j'y suis plus, mais Ouais, tu vois, même dans Rouen, 611 €, tu as peut-être 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Bon, si, donc je disais, sinon tu rajoutes les Rams à 3,02 parce que là, du coup, ça fait exploser la cote. Il y a le bonus multimax, machin et tout. Donc en rajoutant juste les Rams à 3,02 sur ce YOLO là, ça te fait 1891,02 €. Et là, tu rentres dans Paris.
Là, tu rentres dans Paris. Là, soit tu as un beau 3 ou 4 pièces à Boulogne, Billancourt, qui est quasiment le 21e ouais. arrondissement de Paris. Ou alors tu rentres dans Paris, mais il faut un peu baisser le métrage en mètre carré.
Ouais, t'es quoi, t'es à 50, oh, t'es un peu plus, 60 mètres carrés peut-être.
Ouais, voilà, ouais. C'est pas non négligeable à Paris.
J'imagine des gens qui, parce que nous on a été matrixés, tu vois, on y a vécu, donc on est là genre ouais bah oui c'est normal, un SMIC dans un petit 50 mètres carrés, ouais il doit être sympa et tout. T'imagines les gens qui sont vraiment pas matrixés comme nous par le fait d'y avoir vécu, qui entendent des mecs en train de dire ouais 1800 €, t'as quand même un petit 60 mètres carrés sympa, tu vois.
Et le pire c'est quand t'entends les gens qui oui bah c'est les prix, oui c'est les prix, c'est les prix, ouais, ouais oui. C'est ça.
Ouais, non, mais c'est les prix. Franchement, en plus, t'as tous les commerces autour hein, à ce prix-là. Bah ouais, j'espère.
À Paris, ouais, j'espère. Si c'était à Paris qu'il n'y a pas les commerces autour, vraiment, là, c'est qu'il y a un gros souci.
J'espère, clairement. Bon, voilà, en tout cas, pour ce YOLO, vous retrouvez toutes les cotes sur unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Depuis de nombreuses années, maintenant, je crois 6 ou 7 ans, à chaque fois, je commence à me perdre dans les chiffres. C'est l'âge. C'est l'âge du partenariat et l'âge de ma tête qui fait que je commence à m'y perdre. Merci beaucoup, Lucas.
Bah écoute, toujours un plaisir.
On se retrouve très bientôt sur les antennes de TDA. C'est comme ça qu'on termine l'épisode 565. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes, évidemment, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., etc. Bien laisser des étoiles, des commentaires, si possible positifs, hein, évidemment. Si vous nous écoutez, on suppose que c'est que vous aimez bien, pour nous aider dans les classements sur les plateformes. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et que vous le pouvez. Pour nous suivre, évidemment, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TDActu en entier, TikTok @TDActu. Et sur le site, évidemment, tdactu.com, vous avez tout. @Elvola pour toi sur Twitter.
Exactement.
Lucas, voilà. Et @AlainMattei pour moi-même. On se retrouve donc sur tdactu.com. Et le fauteuil, ce sera à 17h30. On revient le dimanche à 17h30. Là, ça y est, on est sur l'horaire classique. Quoique, je crois que ça va bouger pendant les playoffs. Restez branchés. Attends, je dis une bêtise. Non, on reste le dimanche. On a dit qu'on restait le dimanche parce que le samedi, il n'y aurait pas assez de monde. Le samedi, ça va être galère de faire des fauteuils. Donc non, on va rester le dimanche. Donc normalement, le fauteuil ne bouge plus jusqu'au final de conférence, le dimanche à 17h30. Voilà. Et on a même déjà défini des thèmes et tout. Tiens, je peux vous le dire, dimanche, on parlera des presque MVP, c'est-à-dire ces joueurs qui n'étaient pas quarterback, qui auraient pu être MVP, mais qui sont tombés sur un quarterback, et du coup, ils n'ont pas été MVP. Voilà, c'est pour faire écho, évidemment, à la retraite de JJ Watt et sa grande saison 2014. Merci encore, Lucas.
Écoute, toujours un plaisir, et puis je vais faire la vanne, hein. Je suis obligé, à l'année prochaine.
Et c'est vrai, à l'année prochaine. Ah ouais, bonne année à tous. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.